Galaxy 98.5.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud de Toulouse. Et nous allons parler art. Nous allons parler peinture. Nous allons parler artiste. Et on va raconter un petit peu la première partie de la vie d'un artiste local qui habite sur Martre-Tolosane. Et je suis avec Salvatore Cabal. Et Salvatore, bonjour.
Bonjour.
Salvatore, on va faire en deux parties parce que vous avez une vie qui est un peu compliquée. Et si on devait la raconter de A à Z, je crois que même bon nombre de personnes penseraient que vous êtes un affabulateur, tellement c'est un peu particulier.
C'est vrai, d'ailleurs, en général, quand j'ai rendez-vous dans une municipalité ou dans des endroits un peu officiels, la première chose que je fais, je dis aux gens, je vais vous mentir. Alors évidemment, les gens, ils font des yeux comme des plats, et après, je leur explique pourquoi. Je dis, si je vous raconte ma vie telle qu'elle est, vous allez me mettre dehors. Donc, je vous explique ce qu'il en est en partie, je vous laisse un dossier, et après, vous verrez. Et c'est vrai que quand il me rappelle l'après-midi, vous avez bien fait.
Donc c'est pour ça qu'on va essayer de décortiquer un peu tout ça, de voir en quoi la vie de Salvatore Cabal est particulière. Alors, pour commencer, vous êtes artiste peintre.
Oui, je suis plus précisément aquarelliste. Parce que nous, on se distingue un peu des autres peintres, on est des aquarellistes.
C'est quoi un aquarelliste, pour préciser de suite?
Alors, l'aquarelliste, par rapport aux autres peintres, c'est que c'est la peinture la plus difficile techniquement, c'est la moins reconnue et la moins payée. Donc, quand on choisit cette voie-là, c'est ni pour l'argent, ni pour la gloire. Parce qu'on sait déjà que notre parcours va être très 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 difficile. C'est pour ça qu'on se détache un petit peu et on dit on est aquarelliste. C'est un peu une petite fierté.
Donc aquarelliste, c'est la peinture à l'eau?
Peinture à l'eau, tout à fait.
Comment ça a démarré tout ça?
Alors ça a démarré, moi je suis parti sur l'architecture et j'étais dessinateur projeteur dans des cabinets d'architectes. Mais je commençais à peindre en aquarelle, en amateur. Et donc mais très rapidement, tout le monde disait oh, c'est super, c'est super. Et j'ai fini par le croire. J'avais 23-24 ans, j'ai arrêté de travailler dans des cabinets d'architectes, et je me suis mis artiste peintre aquarelliste.
Déjà, tout de suite, je vais faire artiste, je vais décider d'être pauvre.
Presque. Au départ, oui, parce que je veux dire, économiquement, j'ai pas gagné au change au départ. Mais bon, c'était une passion, parce que l'aquarelle, c'est vraiment une passion. Et je me suis dit, allez, lance-toi.
C'était où et quand ça?
Alors moi j'étais à Toulouse, et donc pendant un an et demi, j'ai fait des expositions, je vendais, etc., etc. Je sais pas si j'avais du talent, mais j'ai de la chance, donc je vendais bien. Ce qui se passait, c'est que je voyais que dans le monde de l'art, dans les peintres, les jeunes talents, on les pousse pas trop. On se dirige plutôt vers des peintres confirmés, etc., parce qu'économiquement, pour les galeries, pour les éditeurs, c'est beaucoup plus porteur.
Comment on passe d'architecte à artiste peintre? C'est-à-dire que la technique, elle vient d'où?
Alors, la technique, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que l'aquarelle, c'est du papier qui vit, parce que le papier, quand on le mouille, il se dilate, il se rétracte. L'eau, quand on la met, elle pénètre ou elle s'évapore. Et quand on met le pigment, il s'incruste bien dans le papier ou pas. Donc c'est une peinture qui, en fin de compte, est assez aléatoire. Dire qu'on maîtrise l'aquarelle à 100%, c'est faux. Si on la maîtrise à 70 ou 80%, c'est déjà beaucoup. Et après, c'est l'effet hasard.
Ce qui veut donc dire que vous avez quand même passé pas mal de temps à apprendre cette technique? Vous avez fait des écoles, des choses comme ça?
Non, j'ai pas fait d'école. Je suis que j'ai de la chance parce que dès les premières aquarelles, ça marchait tout de suite. Quoi.
Ça représentait quoi?
Je faisais des vues de Bretagne, des vues de Toulouse, des paysages tout à fait classiques. Mais avec une patte déjà très particulière parce que bon, je faisais des couleurs avec des parmes, des mauves, des couleurs très romantiques, entre guillemets, assez vaporeux. Par rapport aux aquarelles traditionnelles, j'étais déjà différent. C'est-à-dire que j'avais une manière à moi de traiter les paysages. On voyait une aquarelle, on savait que c'était moi.
Il y avait déjà le coup de patte cavalé.
Oui, pour ça que je parle de chance, parce qu'en fin de compte, des fois je me dis que j'ai pas trop de mérite, parce que je l'avais dans les mains. Je peux pas dire que j'ai souffert, je mentirais si je disais que ça a été dur, parce que ça n'a pas été vraiment, j'ai eu un bol monumental. Quoi. Déjà, autour de moi, déjà les aquarelles, je les vendais bien, c'est-à-dire que bon, j'avais pas une grande production, mais je les vendais assez bien. Et j'ai fait quelques expositions. Et donc, oui, ça marchait assez bien. Mais moi, j'aspirais à plus. J'aspirais vraiment à montrer mes peintures
au plus grand nombre de personnes possible. Être reconnu comme les plus grands.
Pas être reconnu comme les plus grands, parce que ça, c'est, dans ma vie, ça n'a pas été ce qui m'a motivé. Parce que moi, je me revendique un peintre populaire. J'aime ce qui est populaire. J'ai toujours habité à la campagne. J'ai gardé les pieds par terre, même si après, j'ai eu beaucoup de succès. Et donc, non, mais c'est pour pouvoir toucher le plus de gens, pouvoir partager ma peinture avec le plus de personnes. C'est pas que le côté économique qui prime. J'avais une vision de ce monde à moi, un peu particulière déjà. C'était déjà un peu...
Les premières expositions, ça marche.
Ça marche.
Ça se vend. Une aquarelle, c'est un exemplaire unique, j'imagine.
Ah oui, une aquarelle, c'est comme n'importe quelle œuvre, que ce soit une aquarelle, une acrylique, ou une huile, ou un pastel. C'est une pièce unique. Après, dans ce monde-là, il y a ce qu'on appelle les éditions. Éditions, c'est-à-dire les gravures, les eaux-fortes, les lithographies, les reproductions, les estampes. Il y a toute une gamme.
C'est des copies, en fait.
C'est des copies plus ou moins artistiques. Des fois, elles sont mécaniques, des fois, elles sont faites à la main. Ça dépend, parce qu'une lithographie sur pierre, il faut d'abord peindre sur la pierre, couleur par couleur, la grainer, c'est-à-dire enlever ce qu'on en fait en la frottant l'une sur l'autre. Surtout qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup plus de techniques d'impression que maintenant. Maintenant, avec le digital, tout s'est réduit comme peau de chagrin. Et donc, des ateliers de lithographie, d'eau forte ou de gravure sur cuivre, il y en a quasiment plus. C'est révolu, quoi, tout ça.
Après, la suite, c'est quoi?
Alors, la suite, c'est qu'il y a une maison d'édition à Paris qui me contacte et me dit « On a vu votre travail, on est intéressé pour vous éditer. » Et donc, bon, je tiens, surpris quand même. Je dis « C'est flatteur. » Mais moi, connaissant ce qui se passait dans le milieu de l'art, parce que bon, on en parlera certainement un peu plus tard, j'ai dit, moi, je veux pas signer avec personne, parce que, en général, les artistes peintres, on n'est pas comme les autres créateurs qui sont protégés par leur industrie. Et nous, on est plutôt roulés par notre industrie.
Vous aviez peur que, en fait, les maisons d'édition pillent votre travail?
Non, pas qu'ils me le pillent, mais qu'en fin de compte, qu'ils me payent pas les droits que moi je voulais, qu'ils impriment pas sur le papier sur lequel je voulais. Moi, je voulais pas qu'ils fassent du poster pas cher, je voulais qu'il y ait de la qualité sur mon travail, etc., etc. Mais une fois qu'on signe le contrat, si on cède les droits, on n'est plus libre de rien.
Mmh.
Et c'est là que j'ai une idée complètement barjou, de devenir mon propre éditeur à 24, 25 ans, quoi.
Là, à 24 ans, 25 ans. Déjà, on quitte le monde de l'architecture pour devenir peintre à 23 ans.
Oui.
Deux ans après, on dit, bon, la peinture, c'est bien, mais si je veux être connu, il faut que j'imprime mes propres œuvres.
Exactement, parce qu'en fin de compte, dans mon délire un peu, c'est que si un musicien, il fait des concerts, tout ça, bon, des paloches, comme à l'époque, ou n'importe, mais dès qu'il sort un label, c'est-à-dire dès qu'il fera, à l'époque, c'était des vinyles, il n'y a pas les CD, et qu'il est connu du grand public, ça change complètement sa vie. Il a beaucoup plus de liberté pour faire des choses, il fait des choses plus intéressantes, économiquement il vit quand même mieux, etc., etc. Et donc moi je me suis dit, ben, je me le fais moi pour moi, tout simplement.
Comment ça s'est passé?
Ça commence à devenir un peu une aventure. Et donc je me dis, c'est bien simple, en plus j'avais pas d'argent à l'époque, parce que je venais de démarrer, économiquement j'étais pas très à l'aise. J'étais sur Toulouse, je me dis, mais si je veux éditer et vendre mes éditions, il va falloir que j'aille ville par ville, ouvrir des points de vente auprès des encadreurs, des galeries, des imagiers, etc. Et donc, si je suis à Toulouse, qu'il faut que je monte à Lille, que je redescende, que j'aille à Strasbourg, que je redescende, donc j'y allais, va. Je pars et je m'installe en Touraine. À Tours.
Au centre de la France.
Au centre de la France pour pouvoir rayonner. Dire, je vais sacrifier peut-être un ou deux ans, sinon je ne vais pas y arriver. Donc, je déménage, je m'installe à Vouvray, où il y a le petit, à côté de Tours. Et là, je me renseigne un peu quelles sont les imprimeries qui sont de qualité dans le coin. Et par l'intermédiaire de l'ami, j'entends parler d'une imprimerie qui est à Saint-Maur de Touraine, l'imprimerie Vaillant. Je débarque un jour à l'imprimerie Vaillant, avec un carton à dessin, avec deux peintures, deux aquarelles. Je vais le voir, c'était le fils qui me reçoit. Et Jean-Paul, on est amis depuis, d'ailleurs, ça fait une longue amitié. Et j'ai dit, voilà, je suis artiste peintre avec un accent du sud à couper au couteau, qui à l'époque n'était pas des plus valorisants, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai dit, voilà, je suis artiste peintre, mais je veux devenir mon propre éditeur, chose qu'à l'époque, il n'y en avait pas, mais je n'ai pas d'argent. Et il me regarde, il me dit, bon, j'ai dit, mais bon, est-ce que c'est possible de faire des échanges ou des traites? Ah, il me dit, pour voir ce que vous faites. Et toujours pareil, c'est un peu la magie, j'ouvre mon carton dessin, il voit les aquarelles, il me dit, attendez une minute. Et il va voir son père, qui était le propriétaire de l'imprimerie, je vois qu'il y avait une vitre, parce que c'était les machines qui étaient derrière, qui discutent, il revient et me dit, on marche. Alors moi, j'étais déjà, j'y croyais pas trop, scotché. Il me dit, on marche, pas de problème, combien vous en voulez? Mais je dis, j'en ai que deux à faire. Le hameau, que j'ai toujours, les originaux, je les ai toujours gardés, ceux-là, j'ai jamais voulu les vendre. Un format 35-50, et au creux de la colline, un format 50-70. Mes exigences, parce qu'en plus je dis exigeant, c'est que je voulais du très beau papier. Et on choisit un papier qui à l'époque s'appelait le Balkis. On imprime sur ce papier-là. Évidemment, les éditions qu'il y avait sur le marché, parce que le marché français était, à l'époque, je vous parle des calendriers qu'on mettait à la cuisine des PTT, et puis il n'y avait que deux, trois éditeurs qui se partageaient le marché français. Dans ces éditeurs, il y Il y avait 90%, c'était des peintres décédés, c'est-à-dire les Van Gogh, les Manet, les Monet, les, etc., les Raphaël. Et il y avait, bon, dans les contemporains, Dali, Buffet, pas beaucoup. C'est-à-dire, c'était des gros catalogues. Et ils avaient le monopole. Et ça, c'était sur du papier normal, poster aussi. Ou alors, c'était la lithographie dans d'autres ateliers, mais qu'on ne vendait pas, beaucoup plus cher. Et donc, me voilà avec mes deux reproductions dans mon carton imprimé.
C'était quoi? C'était de la sérigraphie?
Non, c'était de l'offset.
C'était de l'offset?
C'était de l'offset, mais faite avec des machines pas quadricomies, couleur par couleur. Pourquoi? Parce que l'offset, c'est le mélange d'eau et d'encre. Plus on monte en ancrage, plus on monte en eau. Et donc, ça fait un pastis à la fin. Et donc, on ne peut pas imprimer avec des couleurs fortes, etc., sur un papier qui boit, parce que sur un papier poster, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que ça passe. Donc, quand on imprime que l'encre, mais il y a quand même l'humidité du cylindre. Ce qui fait qu'on ne peut pas trop monter en encre. Et moi, le papier que j'ai choisi, c'est un papier d'art, un papier dessin qui boit énormément. Donc, on a de la perte de points, on a perte de puissance. Et donc, la subtilité, c'est de faire ça avec une machine couleur par couleur, qui est plus difficile à imprimer, mais qui permet de mettre beaucoup plus d'encre. Et du coup, j'ai un résultat, moi, spectaculaire, quoi, ça va.
Tout ça pour deux impressions?
Oui. Pour deux reproductions.
Pour deux reproductions.
Ah oui, les autres éditeurs, ils avaient des catalogues, ils avaient 900 000 références. Moi, j'en avais deux.
Combien? Tirage de combien?
À l'époque, on en avait fait 500 exemplaires.
500 exemplaires, donc pour déposer chaque deux exemplaires dans sa maison, quoi.
Non, parce qu'à l'époque, c'était plus difficile que ça. J'avais pas de clients. J'avais rien. J'avais strictement rien. Une fois que j'ai eu des reproductions, j'ai pris la voiture et j'ai commencé à faire une tournée de un peu plus de 15 jours. Sur un secteur, j'avais commencé par Blois, etc., j'ai recommencé un peu plus sur l'Est. Quand j'y repense, même moi je ris. Je débarquais chez les encadreurs, les imagers, galeries, en me disant, voilà, je me présente, Salvador Caval, je suis artiste peintre, aquarelliste, je suis en train de montrer ma propre maison d'édition. Et j'étais gamin à l'époque, parce qu'on imagine, les gens, ils me regardaient vraiment comme une poule regarde une fourchette, que c'était vraiment... Ils me disaient, ah bon, et tout, mais... Et la magie opérait dès que j'ouvrais le carton. Il me dit, on peut voir par curiosité, parce que vraiment. Donc, j'ouvrais un carton et je sortais deux exemplaires. Deux. Mais, systématiquement, quand ils voyaient, ben, ils achetaient. Bon, pour me faire plaisir en partie, parce que ça leur plaisait, parce que c'était surprenant, parce que c'était surréaliste. Mais, je vendais, à l'époque, je me rappelle, je vendais 12 francs, 15 francs, 20 francs, enfin, pas grand-chose. Ils m'en prenaient une ou deux pour me faire plaisir. Et j'ai continué pendant plus de 15 jours comme ça. Ville par ville. Alors, au niveau commercial, une politique que je m'étais fixée, c'est que je voulais pas qu'il y en ait partout. Donc, dans une ville, s'il y avait trois encadreurs ou machin, j'en mettais qu'un. S'il y en avait cinq, j'en mettais deux. Donc, je limitais la distribution. Je démarrais comme ça. Et la magie, alors là, c'est merci l'univers, merci je sais pas quoi. Après un peu plus de 15 jours, je rentre et j'avais vendu un peu, mais pas énormément non plus. Je rentre chez moi, il n'y avait pas à l'époque ni le Minitel, ni Internet, ni les portes. Il n'y avait rien, il n'y avait que le courrier. Et donc, j'arrive chez moi. Et je vois la boîte aux lettres, pleine d'enveloppes. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je prends, j'ouvre, tous les magasins à qui j'avais vendu mes reproductions, ils avaient tout vendu. Bon, ils n'avaient pas vendu beaucoup, parce qu'il n'y en avait qu'une ou deux. Mais tous, ils avaient tous vendu. Je dis, waouh! Et c'est là que ça a démarré. Parce qu'en fin de compte, la deuxième tournée, j'ai refait la même. Seulement, ils m'en achetaient plus deux. Ils m'en achetaient 5, 6, 10. Et cette opération de un exemplaire et après 5 ou 10 exemplaires, c'est répété au fur et à mesure de mes tournées. Voilà comment j'ai démarré.
Et c'est ce qui a permis en plus de payer les reproductions.
Ah ben, évidemment. Alors j'ai pu au bout de mois faire, parce qu'il y avait deux traites, je me souviens, c'était deux traites, 30 et 60 jours. Donc le premier mois, je paye ma première traite.
L'imprimeur qui a dû être surpris d'ailleurs.
Oui, je dois avouer que Jean-Paul, il me l'a dit après. Il m'a dit, ça ne nous coûtait pas trop cher. Et donc j'étais sympathique, j'étais marrant. Enfin bon, il m'a dit, on a fait ça surtout pour te faire plaisir, parce qu'on n'y croyait pas trop, hein. Et donc, je paye ma première échéance. Donc, très bien, je continue, je perds ma deuxième échéance. Allez, je repars. Je fais encore deux modèles. Je m'obtiens des titres. C'était 2,35,50. C'était Belle Journée et Naissance. C'était deux paysages avec des couleurs mauve, rosé, parme. Et me voilà parti comme ça. Et donc, en fin de compte, j'ai passé, pour faire un peu court, un an et demi en Touraine. Et je suis arrivé à avoir presque 200 magasins en France. Mmh. Et ma collection, évidemment, était montée à 10, 12, 15 modèles. Avec des anecdotes, évidemment, au fur et à mesure de toutes mes péripéties, parce que bon, il y en a, ils hallucinaient quand ils me voyaient. Et donc, voilà un peu la chance que j'ai eue d'une idée complètement farfelue. Mais la magie, c'était quand j'ouvrais le carton. Alors ça, c'était...
Les yeux des gens
quand ils voyaient. Ah ouais, les gens quand ils voyaient. Premièrement, c'était une aquarelle tout à fait neuve. Vraiment, c'était une bouffée d'air. Parce que, entre nous, les encadreurs, ça, ils commencent à en avoir un peu, pas marre, mais être un peu fatigués de toujours encadrer les Manet, les Monet, les Dali, enfin bon, tout ce que tout le monde avait. Ils avaient tous pareil. Et là, ils avaient quelque chose qui était nouveau, qui était contemporain, qui était dans l'esprit du temps. Ça a été un concours de circonstances d'une chose et d'une autre qui m'ont ouvert un boulevard, quoi.
Et d'être là au bon moment et voilà. Avec le bon produit, quoi.
Et le bon produit. Et le gros, c'est ce que j'ai compris après, parce qu'après, j'ai eu beaucoup de relations d'amitié avec tous ces points de vente, parce que bon, ça leur était jamais arrivé qu'un peintre débarque et qu'il fasse ce que je faisais moi. C'est grâce à eux que je suis devenu connu. J'étais leur peintre. Tous
ça,
ces gens-là.
C'est ça, c'est les galeristes même, enfin
les
encadreurs.
Oui, les galeristes,
encadreurs,
c'est les imagiers, les encadreurs. Il y a beaucoup plus d'imagiers et d'encadreurs, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'encadreurs que de galeries. Galeries, il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. C'est eux qui m'ont fait connaître. Je pense qu'ils en étaient quand même conscients, mais j'étais leur peintre. Donc, quand quelqu'un rentrait dans leur établissement et qu'ils avaient toute une gamme d'éditions de trucs à vendre, qui c'est qu'ils essayaient de placer en premier? C'était moi. Parce qu'ils m'avaient vu faire tous les efforts que je faisais, ils m'avaient vu prendre des risques, ils m'avaient vu débarquer avec mon carton dessin, ils avaient vu la progression que j'avais, ils avaient vu les collections qui augmentaient.
Et de dire éventuellement au client, c'est un jeune peintre qui débute, ça va avoir de la valeur pour acheter le
Peut-être pas maintenant. De la valeur, parce que c'était pas une question d'argent à l'époque, c'était des éditions, donc les éditions ne prennent pas trop de valeur. Mais par contre, ils pouvaient dire aux gens, ça vous le trouverez pas partout. Et puis en plus, ils pouvaient dire, ce peintre, je le connais.
Donc là, on a fait le tour de France, justement, pour pouvoir déposer toutes ces peintures qui se vendent un peu partout. Le nom Salvatore Cavalli commence à être un peu connu.
Ah oui, parce que si tu veux, comme j'expliquais avant, c'est la différence entre faire un concert ou faire une exposition, où il y a peut-être, je ne sais pas moi, 50, 100 ou 200 personnes qui vont voir ce que tu fais. Parce qu'à l'époque, je suis arrivé presque à 200 magasins, 200 établissements qui les vendaient. Et c'est des milliers de personnes qui ont acheté mes éditions. Parce que bon, 500 plus 100 multiplié, je suis peut-être à 8 ou 9 ou 10 000 exemplaires vendus en 2 ans. Les gens commencent à parler de moi, les galeries s'intéressent à moi, etc., etc. Donc ça a été mon tremplin.
Tout ça, c'était le tremplin, la première partie de la vie de Salvatore Cavalli. Et maintenant, on va passer dans une prochaine émission, la suite, d'avoir comment on a multiplié encore ça avec deuxième idée de génie, j'allais dire, qui sera la surprise de cette deuxième émission. Salvatore, merci beaucoup.
De rien, c'est un plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Radio Galaxie, c'est la radio que j'écoute.